Chapitre 7 Le piège. Comme l'avait dit McMurdo, son logis situé très à l'écart dans un faubourg extérieur loin du chemin se prêtait admirablement au crime. En toute autre circonstance, les bandits se fussent contentés d'attirer au dehors leurs victimes et de décharger sur elles leurs pistolets. Mais dans le cas actuel, il leur importait surtout de savoir quelles informations Burley Edwards avait pu recueillir et transmettre. Si déjà ils intervenaient trop tard, si le mal était fait, ou du moins, ils auraient le plaisir de la vengeance. Mais ils espéraient que rien de grave n'était venu à la connaissance du détective. Bien renseigné, il n'eût pas pris la peine de noter et de télégraphier les balivernes que lui avait confié McMurdo. Au surplus, il le saurait de lui-même. Quand il le tiendrait dans leur pouvoir, il le forcerait bien à parler. Ce ne serait pas la première fois qu'ayant affaire à un témoin récalcitrant, il lui aurait délié la langue. Ainsi qu'il était convenu, McMurdo se rendit à Horston's Patch. La police semblait lui porter un intérêt particulier ce matin-là. Le capitaine Martwin voulut l'aborder dans la salle d'attente de la gare, mais il lui tourna le dos. Au retour de sa mission dans la journée, il vit McGinty à la maison de l'Union. « Notre homme viendra, » dit-il. « Bon, » répondit McGinty. Le géant était en manche de chemise. Sur l'ampleur de son gilet, reluisaient des chaînes et des pendeloques. Un diamant jetait des feux à travers le fouillis de sa barbe. La politique et le commerce des boissons devaient donner à la fois la richesse et la puissance. Il trouvait d'autant plus importante l'idée de la prison ou de la potence brusquement évoquée à ses yeux la veille au soir. « Pensez-vous qu'il sache beaucoup de choses ?» demanda-t-il avec angoisse. McMurdo hocha tristement la tête. « Oh, il est ici depuis quelque temps, au moins depuis 6 semaines. » Avec l'argent des compagnies, il a dû obtenir des résultats, il ne les aura pas gardés pour lui seul. Bon, nous n'avons pas à la loge un homme capable d'une faiblesse, sauf peut-être ce capot de Maurice. Si quelqu'un de nous mangeait le morceau, ce serait lui. J'ai bonne envie de dépêcher avant ce soir deux de nos garçons qu'ils secoueront de façon à faire tomber son masque. « Oh, je n'y vois pas d'inconvénient, » répondit McMurdo. « Je vous avoue que j'ai quelque sympathie pour Maurice et regretterais qu'il lui arrive à rien de fâcheux. Une ou deux fois, j'ai causé avec lui des affaires de la loge. Eh bien, qu'il ne partage pas toutes nos idées, il ne m'a pas fait l'effet d'un traître. Mais je n'ai pas à m'interposer entre vous et lui. » « Oh, je veux en finir avec ce vieux drôle !» cria McGinty dans un blasphème. « Voilà un an que je le guette. Oh, »« Vous savez mieux que moi ce que vous avez à faire, » répartit McMurdo. « Cependant, quoi que vous fassiez, il faut que vous preniez patience jusqu'à demain. Puisque la question Pinkerton n'est pas réglée, gardons-nous de lever la... tête. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui d'ameuter la police. Vous avez raison. Dussions-nous lui couper le cœur en morceaux. C'est de Billy Edwards lui-même que nous apprendrons le nom de son informateur. Il n'a pas eu l'air de flairer le piège. McMurdo se mit à rire. Je l'ai pris par son point faible. Qu'on le mette sur la piste des écumeurs. Il ira aussi loin qu'il voudra. Alors j'ai accepté son argent. Macardo exhibait en ricanant une liasse de banknotes. Et je recevrai une somme égale quand j'aurai montré les papiers. Quels papiers ? Des papiers imaginaires, parbleu. Statut, règlement, liste de membres. Il se flatte de ne repartir qu'ayant surjoint la fin de l'histoire. Il se trompe pas, dit McCarthy d'un air sinistre. Vous a-t-il demandé pourquoi vous ne lui portiez pas vos papiers ? Comme s'il me jugeait capable d'une pareille imprudence. Moi, un homme suspect, que le capitaine Merwin interpellait encore aujourd'hui, à la gare. En effet, je suis cela, dit McGinty. Et je crains pour vous les suites de l'incident. Nous pourrons bien, après en avoir fini avec notre homme, le jeter dans quelque vieux puits de mine, mais quoi que nous fassions, n'empêcherons pas qu'il habite en South Patch et que vous y soyez allé aujourd'hui. » Et McMurdo haussa les épaules. « Si nous savons manœuvrer, jamais, dit-il, on le prouvera que vous l'ayez tué. Personne ne peut le voir entrer dans la maison à la nuit close. Et je m'arrangerai pour que personne ne l'envoie sortir. Écoutez-moi, conseiller, je vais vous expliquer mon plan. » Vous l'appliquerez ensuite aux autres. Vous avez tout à l'heure convenu. Eh bien, il arrive à 10 heures. Il frappe 3 coups. Je vais lui ouvrir. Je l'introduis et je referme la porte. Là, le voilà dans nos mains. Oui, c'est simple et net. Mais le reste demande réflexion. Il est armé. Sans bobeliner, que je suppose, il doit se tenir sur ses gardes. Imaginez que je le fasse entrer tout de go dans une chambre où il se rencontre avec 7 hommes quand il s'attendrait à me trouver seul. Il peut se servir de son arme et blesser quelqu'un. En effet, et le bruit peut attirer tous les cognes de la ville. Très juste. Voici donc comment je procéderai. Vous vous tenez dans la grande salle, celle où je vous ai reçu un jour. Je le mène dans le parloir à côté de la porte, et je l'y laisse sous le prétexte d'aller chercher mes papiers. Cela me permet d'aller vous indiquer le tour que prennent les choses. Puis je reviens à lui avec des papiers truqués. Et quand je le vois plonger dans sa lecture, je bondis et lui empoigne la main dont il tient le pistolet. Vous précipitez à mon appel. Plus prompt vous serez, mieux cela vaudra, car il est aussi fort que moi. Je puis avoir du mal à le maintenir jusqu'à votre arrivée, mais j'y réussirai, j'espère. Votre plan me paraît excellent, dit McGinty. La loge aura contracté envers vous une grande dette. Je présume que le jour où je quitterai mon siège, je saurai qui désigner pour mon successeur. Évidemment, je ne suis pas un conscrit, fit McMurdo d'une voix modeste. Mais l'on s'en laissait voir le cas qu'il faisait des éloges du grand homme. Rentré chez lui, il prit ses dispositions en vue de la tragique soirée qu'il attendait. D'abord, il nettoya, graissa et chargea son revolver, Smith & Watson. Puis, il inspecta la chambre qui devait servir au guet-apens. C'était une vaste pièce dont une longue table de bois blanc occupait le centre et le grand poêle une extrémité. Elle prenait jour sur 2 côtés, par 2 fenêtres sans persiennes, munies simplement de légers rideaux. Mais Murdo en fit la remarque. Assurément, elle semblait bien exposée à la vue pour une affaire si secrète. Mais la distance où elle se trouvait de la route, l'inconvénient avait moins de gravité. Enfin, McMurdo eut une conversation avec son co-pensionnaire. Scanlan, bien qu'appartenant à la bande des écumeurs, était un inoffensif petit bonhomme, trop mou pour se mettre en position avec ses camarades, mais qui, dans le fond, avait horreur des scènes sanglantes. McMurdo lui fit part brièvement de ce qu'il se tramait. « À bord demain, il y aura ici mort d'homme. À votre place, je me défilerai. » Mike Scarton, je passerai la nuit dehors. Ma foi, Max, ce n'est pas le bon vouloir, mais l'énergie qui me manque. Quand j'ai vu l'autre jour tuer Dunn, le docteur, directeur, j'ai mal supporté la secousse. Je ne me suis pas fait pour ça, comme vous, McKinty. Si la loge ne doit pas me le reprocher, je suivrai votre conseil. Je vous laisserai seul. Les sept hommes furent exacts au rendez-vous. Ils avaient l'extérieur, la tenue décente de citoyens respectables, mais leurs bouches étaient dures, leurs yeux impitoyables. Un physionomiste aurait lu sur leur visage la condamnation de Bernard Edwards. Pas un d'entre eux qui n'eût rougi ses mains une douzaine de fois. Ils apportaient dans le meurtre la même insensibilité que le boucher dans sa profession. Le plus redoutable d'apparence et de fait, c'était naturellement le maître. Alors ouais, le secrétaire était un homme chétif, chagrin, qui avait sur son long cou décharné et les jambes toujours agitées d'un mouvement nerveux. Poussant la probité jusqu'au scrupule dans la gestion des finances de l'ordre. Il ne connaissait en dehors de cela ni foi ni loi. Le trésorier Carter, figure impassible, plus maussade et qui marquait un certain âge, avait de grands talents d'organisateur. Il n'était pas un crime commis par la loge dont il n'eût prémédité tous les détails. Les deux Willoughby, grands, jeunes, minces, avaient la mine résolue des gens d'action. Quant à Tiger Cornac, jeune aussi, et de forte carrure, sa férocité naturelle le faisait craindre de ses propres camarades. McMurdo avait placé le whisky sur la table, et tous, ils s'étaient hâtés d'y puiser de l'entrain. Déjà, Baldwin et Cornac, à moitié ivres, laissaient éclater leurs instincts sauvages. Cornac, les mains tendues à la chaleur du poêle, qui ronflait car les nuits étaient encore froides, jeta dans un juron « Voilà qui fait du bien à un homme !»« Oui, dit Baldwin !» comprenant l'atroce sous-entendu. Qu'on y attache Billy Edwards, et je gâche bientôt qu'il paiera. Oh, il parlera, soyez tranquille, dit McMurdo, dont il fallait que les dents fassent régulièrement tremper, car, pourtant, tout le poids de l'affaire. Il affirmait néanmoins un tel sang-froid, un tel détachement absolu que les autres applaudirent. Vous en userez avec lui comme il vous plaira. Nous l'abandonnons, fit le maître. Il ne doutera de là rien jusqu'à ce qu'il ait votre main sur la gorge. Dommage qu'il n'y ait pas de contrevent à vos fenêtres. McMurdo alla de l'une à l'autre en tirer les rideaux. Personne ne peut nous voir à pareille heure. Eh, s'il ne venait pas, s'il avait flairé le danger, dit le secrétaire. Je vous garantis qu'il viendra, répondit McMurdo. Il n'est pas moins impatient de voir, de venir que vous de le voir. Allez, attention. trois coups avaient retenti à la porte. Les sept hommes, brusquement immobilisés, le verre en main, semblaient des figures de cire. « Chut !» McMurdo leur faisait signe de se taire. Ils échangèrent un regard exultant et cherchèrent secrètement leurs armes. « Sur votre vie, pas un mot !» chuchota McMurdo en sortant de la chambre, dont il referma soigneusement la porte. L'oreille tendue, ils s'efforcèrent à la patience. Ils comptèrent les pas de leurs camarades s'éloignant dans le corridor. Ils entendirent ouvrir la porte d'entrée et faire accueil aux visiteurs. Un pas étranger résonna sur le seuil. Une voix inconnue prononça quelques paroles. Puis la porte retomba bruyamment, la clé tourna dans la serrure. Leur proie ne leur échapperait pas. Et Tailleur Cornac partit à un rire affreux que l'Agjindi, lui, mit sa grande main en travers de la bouche. « Du calme, jeune fou » murmura-t-il. « Vous pourriez encore tout gâter !» La rumeur d'une conversation arrivait d'une chambre voisine. Il semblait qu'elle ne dût pas s'arrêter. Et soudain, la porte s'ouvrit, McMurdo apparut un doigt sur les lèvres. Il s'approcha du bout de la table et regarda tour à tour ses complices. Un changement subit se manifestait en lui. Il avait l'air d'un homme qui s'apprête à accomplir une grande œuvre. Son visage avait pris la dureté du granit. Ses yeux brûlaient derrière son binocle. Tous le considéraient fixement, avidement, sans rien dire. Et il continuait de promener de l'un à l'autre un regard étrange. « Eh bien !» finit par s'écrier McGinty. « Est-il là ? Birdie Edwards, est-il là ?»« Oui !» répondit McMurdo lentement. « Bill Edwards est là ! Je suis Bill Edwards !» Ces mots prononcés, 10 secondes s'écoulèrent durant lesquelles la chambre parut vide, tant le silence y fut profond. Une bouilloire siffla sur le poêle. 7 visages blêmes s'étant levés, 7 hommes considéraient dans l'épouvante l'homme qui les dominait de tout son haut. Il se fit alors un grand fracas de vitres cassées, des canons de fusil brillèrent dans le cadre des fenêtres, les rideaux sautèrent de leurs tringles. Poussant un grognement d'ours blessé, McGinty se précipita vers la porte à demi ouverte. La menace d'un revolver et les yeux bleus du capitaine Marwin, sévèrement braqués sur lui, le fit reculer jusqu'à son siège. « Vous êtes mieux là, conseiller, » dit celui qui jusqu'alors s'était appelé McMurdo. « Et quant à vous, Baldwin, laissez donc votre revolver en paix si vous ne pouvez faire de la corde. Allons, obéissez ou de par Dieu, là c'est bien. Il y a dans la maison 40 gaillards bien armés. Calculez vos chances. Qu'on s'assure d'eux, Marwin. » Et devant tous ces fusils baissés, aucune résistance n'était possible. On désarma les assassins. Mornes, confondus, stupides, ils demeuraient assis autour de la table. Je tiens à m'expliquer d'un mot avant que nous nous séparions, dit l'homme qui avait pris. Ils les avaient pris au piège. Nous nous retirons sans doute, nous ne reverrons que devant le juge. Et je voudrais en attendant vous fournir quelques sujets de réflexion. Vous saurez désormais qui je suis. Je puis enfin abattre mes cartes. Je suis Birdy Edwards de l'agence Pinkerton. Choisi pour anéantir votre clique, j'avais à jouer un rôle difficile et dangereux. Ni moi, plus proche parent, ni mon ami le plus cher, personne n'en soupçonna rien. Personne, à l'exception du capitaine Marwin et d'un de mes chefs. Ce soir, Dieu merci, la partie est finie, et c'est moi qui gagne. Vous croyez peut-être que le jeu continue, soit je l'aviserai. En tout cas, je sais plusieurs d'entre vous qui ne prendront pas jamais la main. Et je ne parle pas d'une soixantaine de vos acolytes qui le soir coucheront en prison. Je vous l'avoue, quand on me chargea de cette affaire, je refusais de croire qu'il existât une société comme la vôtre. Imagination de journaliste, pensais-je. Je me flairais d'en faire la preuve. On me dit que vous dépendiez des hommes libres. Alors j'allais à Chicago, je me fis recevoir parmi eux, et je crus que davantage des racontars de journaux, car je trouvais une société non seulement inoffensive, mais bienfaisante. Cependant, j'avais à remplir ma mission. Je vins au pays de la houille. Et sitôt arrivé, je m'aperçus de mon erreur. Je compris que les journaux n'avaient rien inventé. Je restai donc et m'attelai à la besogne. Je n'ai commis aucun meurtre à Chicago. Je n'ai jamais fabriqué un faux dollar. Ce que je vous ai donné valent tous les autres. Et c'est le meilleur placement que j'ai fait de ma vie. Je savais le moyen d'entrer dans vos bonnes grâces. Je ne prétendais en rien en but aux tracasseries de la justice. Et j'obtins le résultat que j'espérais. Alors, je m'affiliai à votre loge infernale. Je pris place dans vos conseils. Vous direz peut-être que je m'y montrais votre digne émule. Bon, dites ce qui vous plaira. Je vous tiens. D'ailleurs, vous devez savoir la vérité. Je fus de la bande chargée de châtier le vieux Stranger. Le temps m'avait marqué pour le prévenir, mais j'arrêtais votre main, Baldwin, au moment où vous alliez le tuer. Et si, pour garder ma situation au milieu de vous, je vous suggérais certaines choses, c'était des choses que je ne pouvais empêcher. Faute de renseignements suffisants, je l'ai pu sauver Downey Mercer, mais si les meurtriers échappent à la potence, il n'y aura pas de ma faute. J'ai besoin de prévenir Chester Wilcox avant de faire sauter sa maison. Et quand elle sauta, il était à l'abri avec sa famille. J'ai malgré moi laissé se commettre bien des crimes. Mais faites un retour en arrière. Songez combien de fois il arriva qu'un homme que vous guettiez sur le chemin passait par un autre, ou qu'il fût en ville quand vous alliez le demander chez lui, ou qu'il fût chez lui quand vous le cherchiez en ville. Tout cela, c'était mon œuvre.
Traître ! Fit McGinty, les dents serrées et la voix sifflante.
« Oui, oui, John McGinty, affublez-moi des noms que vous voudrez, si ça vous soulage. Vous et vos pareils, vous vous conduisez ici en ennemi de Dieu et des hommes. Il était temps que quelqu'un s'interposât entre vous et les pauvres diables que vous teniez à la gorge. Mais il n'y avait qu'un moyen d'y réussir, et je l'ai pris. » Moi, un traître ? Oh, j'imagine que bien des gens me qualifieront de libérateur quand ils sauront que pour les sauver, je suis descendu dans l'enfer. J'ai passé 3 mois et ne voudrais pas avoir à y passer de nouveau, dit le trésor de l'État, m'ouvrir ses coffres. J'étais forcé de rester jusqu'au moment où je vous tiendrai tous dans la main, avec tout vos mystères. Oh, j'aurais encore attendu un peu si j'avais appris que mon secret était en danger. Une lettre reçue en ville menaçait de vous faire connaître. Il faut agir, alors j'agis vivement. Je n'ai plus rien à vous dire, sauf que le jour de ma mort, je n'en dirai pas moins un regret en songeant à ce que j'ai fait dans cette vallée. Qu'on me ramasse tout ça maintenant, et en route ! Dans la soirée, Skalman, prié de porter une lettre à Misetti Schaeffer, avait acquitté sa mission avec une œillade et un sourire d'intelligence, et dès la première heure du matin, un train spécial envoyé par la compagnie du chemin de fer emportait 2 voyageurs, dont l'un était une femme remarquablement belle et l'autre un homme qui prenait de visibles précautions pour n'être pas reconnu. Leur voyage s'accomplit sans arrêt ni encombre. Hetty et son amoureux ne devaient plus y mettre les pieds dans la vallée de la peur. 10 jours plus tard, ils se mariaient à Chicago. Le vieux Jacob Schaeffer assistait à leurs noces. Le procès des écumeurs se déroula loin des lieux où aurait pu s'exercer l'influence de leurs adeptes. En vain essayèrent-ils de lutter. En vain la loge fit-elle pour les sauver ruisseler son argent. Aucun expédient de leurs défenseurs ne prévalut contre les déclarations froides, nettes, sans colère, d'un homme qui avait étudié dans le moindre détail leur vie, leur organisation, leurs crimes. Après tant d'années, ils furent enfin brisés et dispersés. La vallée vit se lever le nuage qui pesait sur elle. Le gibet termina les jours de McGinty, qui se fit humble et larmoyant quand il vit venir sa dernière heure. 8 de ses complices partagèrent son sort. 50 autres furent condamnés à un emprisonnement de plus ou moins longue durée. L'œuvre de Billy Edwards était complète. Cependant, Ted Baldwin avait échappé à la potence. De même, les Willoughby et quelques-uns des autres sujets de la bande. Ils disparurent 10 ans, puis un jour, ils se retrouvèrent libres. Et en ce jour-là, Edwards comprit que c'en était fait de son repos. Ils avaient juré de venger par la mort de leurs camarades. Ils s'y employèrent par tous les moyens. Ils le chassèrent de Chicago après 2 tentatives d'assassinat, manquées de bien peu. Réfugiés sous un faux nom en Californie, il fut pour longtemps assombri par la mort de sa femme. Une fois de plus, il n'évita que de près les assassins et s'en alla sous le nom de Douglas, travailler dans une gorge solitaire au fond d'une montagne où, devenu l'associé d'un Anglais nommé Baker, il amassa une fortune. Enfin averti que ses persécuteurs avaient retrouvé sa trace, il s'enfuit juste assez tôt pour l'Angleterre. Il s'y remaria, il épousa une femme digne de lui, et c'est ainsi que John Douglas mena 5 ans dans le Sussex une existence de gentilhomme campagnard que devaient encore interrompre les étranges événements du manoir de Burstom. Épilogue de la vallée de la peur. La cour de police avait clos ses débats en déférant Joe Douglas à la cour d'assises. Il fut acquitté comme ayant, dans le cas de légitime défense. Faites-le partir d'Angleterre à tout prix, écrivit Holmes à sa femme. Il n'est pas en sûreté. Un péril plus redoutable que ce dont il s'est inspiré l'y menace encore. Et 2 mois avaient passé. Le souvenir de l'affaire commençait à s'effacer dans les esprits quand un matin, un billet des plus énigmatiques se glissa dans notre boîte aux lettres. « Oh, mon Dieu, monsieur Holmes !» disait-il simplement. « Pas d'adresse ni de signature. » Je le ris, mais Holmes l'accueillit avec une gravité peu ordinaire. « Oh, quelle histoire infernale, Watson !» me dit-il. Et le front blissé, il s'allongea sur son siège. Comme la soirée s'avançait, notre logeuse, Miss Hutchinson, vint annoncer tout d'un coup qu'un gentleman demandait à voir M. Holmes pour une affaire de la plus haute importance. Au même instant apparaissait derrière elle M. Cecil Baker, notre ami du manoir. Il avait la mine tirée, hagarde. Oh, j'ai de terribles nouvelles, M. Holmes, dit-il. Je craignais, dit Holmes. Vous n'avez pas, je suppose, reçu un télégramme? Non, mais voici un billet dont l'auteur a dû en recevoir un. Oh, il s'agit du pauvre Douglas. On me dit qu'en réalité, il s'appelait Edwards, mais pour moi, il sera toujours Jacques Douglas, le Beetle Cannon. Vous avez fait savoir, il y a 3 semaines, il s'est embarqué avec sa femme pour soulever l'Afrique à bord du Palmyre. Effectivement. Et le paquebot arriva au Cap la nuit dernière. Et ce matin, je reçois de Mrs. Douglas le cablogramme suivant. Jack, enlevé du bord dans un coup de vent, a disparu au large de Sainte-Hélène. On ignore comment l'accident a pu se produire. Ivy Douglas. Ah, c'est donc cela, fit Holmes songeur. Eh bien, je ne doute pas que l'accident ait été fort bien machiné. Autrement dit, vous n'y voyez pas un accident. Oh, non, mais un meurtre, bien sûr. Moi aussi. Ces derniers écumeurs, ces monstres affamés de vengeance. Non, non, cher monsieur, nous dit Holmes. Ceci trahit une main magistrale. Pas de fusil à canon écourté, pas de revolver qui manque son homme. On reconnaît un maître à sa manière. Quand il y a quelque part à mon atelier, j'ai garde de m'y tromper. Et cette fois, le coup n'est pas parti d'Amérique, mais de Londres. Et qu'est-ce qui vous le fait croire? C'est qu'il a été commis par un homme qui n'a pas le droit de ne pas être infaillible, car sa situation, qui est unique, repose sur le fait qui doit réussir tout ce qu'il entreprend. Une grande intelligence et une puissante organisation se sont appliquées à la perte d'un homme. Sans doute, prendre un marteau pour casser une noisette, c'est pousser l'énergie à l'absurde. Cela tient de l'extravagance, mais enfin, la noisette est cassée. Mais comment l'individu dont vous parlez a-t-il pu se trouver mêlé à cette sphère? Oh, je sais seulement une chose, c'est que le premier mot m'en a été dit par un de ses lieutenants. Nos Américains se sont conduits en gens avisés. Transportant leurs opérations en Angleterre, ils ont fait ce qu'aurait pu faire n'importe quel criminel. Ils ont lié à leur cause cet oracle du crime. Tout d'abord,
se sera contenté de rechercher la victime. Puis il aura tracé un programme d'exécution. Enfin, ayant appris par les journaux le succès de la tentative de Baldwin, il sera personnellement intervenu avec sa maîtresse et maîtrise habituelle. Vous m'avez entendu à Wolfstone mettre votre ami en garde contre un danger plus grand que ceux qu'il avait couru. Me trompais-je? Barker, dans sa colère imposante, puissant de se cogner la tête avec les deux poings. Alors faudra-t-il que nous en restions là? Ce démoniaque personnage ne trouvera jamais devant lui quelqu'un de sa taille. Oh, je ne prétends pas cela, dit Holmes, qui semblait regarder très loin. Oh, je ne prétends pas qu'on ne puisse le vaincre, mais donnez-moi du temps, donnez-moi du temps. Et nous demeurâmes silencieux quelques minutes, tandis que ses yeux divinateurs s'efforçait de pénétrer l'avenir. Fin.